RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les grandes gueules en direct sur RMC la radio, RMC Story la télé. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. 3 heures de débat, liberté d'expression avec vous bien sûr. Hein, vous animez le débat au 32-16. On attend vos appels sur tous les sujets d'actualité que nous allons aborder ce matin. Avec autour de la table, maître Sandrine Pégan. Bonjour Sandrine.
Bonjour à tous.
L'ami Jean-Loup Bonamy, prof de philo, est avec nous. Salut Jean-Loup.
Bonjour. Enfin, j'ai été relégué seul sur ce gigantesque plateau. J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde.
Non, mais c'est bien la distance entre nous. C'est bien.
À la radio, nous sommes sur un plateau différent.
Gigantesque.
Donc ce plateau, c'est le plateau 1. Il est immense. Ouais. Avec une table à la poutine.
Mais ça nous va bien, ça nous va bien.
Mais je ne vois plus vraiment Olivier.
Jean-Loup se sent un peu perdu.
Bah oui, isolé, relégué.
Tu vas voir, ça va le faire, ça va le faire. Et puis je voudrais vous présenter un restaurateur qui nous vient de Normandie. Il s'appelle Zoran Spasojevic. Bonjour Zoran.
Bonjour, ravi d'être parmi vous.
Restaurateur du côté d'Honfleur.
Ça fait.
Charmant petit port de Normandie, mondialement connu.
Oui, une des destinations les plus visitées de France aussi.
Tu as quel âge Zoran?
J'ai 55 ans.
Ça fait longtemps que tu es restaurateur là-bas?
Ça fait 4 ans que je suis restaurateur là-bas, après avoir fait une trentaine d'années à Paris.
Ouais. Voilà. Et c'est un des beaux restos d'Honfleur. Hein.
Oui, c'est un des beaux restos d'Honfleur.
Donc on y va quand?
Vous êtes les bienvenus.
Bah oui,
et
toujours.
J'écoute les GG.
J'écoute les GG depuis de nombreuses années. Donc voilà, je suis à la fois stressé d'être ici, puis à la fois c'est un univers qui m'est familier. Donc voilà, je pense que ça va bien.
Pourquoi familier?
Parce que je vous ai écouté depuis tellement longtemps que.
Oui, t'as l'impression de nous connaître par cœur.
C'est ça, exactement.
Ne sois pas stressé. Non, tu vas voir.
Nous sommes tous bienveillants ici.
Tout va bien, enfin.
Pas tous. Mais bon. De quoi va-t-on parler dans un instant? On passera un coup de fil à Gabriel Attal, le candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il fait une proposition, il veut réduire considérablement l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Vous savez, c'est quand même une spécificité française, l'écart est devenu très important. Et lui, il dit que c'est un scandale français, cet écart. Il veut redonner du pouvoir d'achat, notamment à la classe moyenne. Alors, il nous dira comment, puisqu'il veut carrément essayer de redonner un 13e mois aux salariés français. Comment fait-il? Parce qu'il faut faire des économies, parce que forcément, si on baisse le coût du travail, c'est des rentrées d'argent en moins pour l'État, pour la sécurité sociale. Donc, comment va-t-il faire? Gabriel Attal répondra aux grandes gueules par téléphone tout à l'heure vers 10h. Mais pour commencer, je voudrais qu'on s'intéresse quand même un instant à ce qui se passe, parce que c'est quand même une catastrophe du côté de la Nouvelle-Aquitaine, en Gironde et dans les Landes, avec des incendies qu'on n'arrive pas à maîtriser.
Là, on est allé à la maison et il n'y a plus rien. Les pompiers, ils nous ont dit de faire marche en arrière parce que c'est encore en flamme. Donc, tout fourrage, tout tombe bête, tout est parti, quoi.
On dit que peut-être on va rentrer, on va trouver que des cendres. J'ose même pas allumer les caméras parce que je crois que si je vois ça, ça va être terrible. On a l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Moi, j'ai 44 ans que je vis ici, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, des fois, on en a traversé, je n'ai jamais vécu ça, jamais.
L'angoisse et l'émotion de ces habitants, de ces touristes, deux incendies qui font rage. Donc les feux ont parcouru, selon un dernier pointage, 8700 hectares en Gironde et 2005 dans les Landes. Donc c'est à la fois le village de la Presqu'île, enfin les villages de la Presqu'île du Cap Ferret qui sont menacés. De l'autre côté, c'est Biscarrosse. 40 000 personnes au moins évacuées. La France a demandé de l'aide pour obtenir des renforts européens. Doit-on craindre le pire? C'est la question qu'on se pose ce matin. On voit des gens qui sont donc obligés d'évacuer. Alors les routes, bien sûr, sont embouteillées. La presqu'île du Cap Ferret peut être évacuée par bateau. Donc il y a un système de navettes qui a été mis en place. Bref, c'est un peu la panique générale, même si c'est bien organisé. Parce que l'idée, c'est de faire ces évacuations de manière préventive pour éviter que ça soit justement le chaos le plus total. C'est vrai que c'est assez effrayant de voir ces images. Il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances ce week-end. Certains vont devoir changer leur plan parce qu'ils devaient peut-être aller du côté de la Gironde ou des Landes. Qu'en pensez-vous, mes chers grandes gueules? Sandrine Pégan.
Moi, je trouve que les mots de cette habitante, quand elle dit que c'est la fin du monde, je trouve que ces mots sont effarants. Et je voue une admiration, mais alors sans faille aux pompiers, parce qu'ils font un travail remarquable, et on peut rendre aussi hommage aux pompiers, aux deux pompiers qui sont décédés
cette semaine.
Et je trouve que en effet, ça fait terriblement peur. Et là, de te dire que tu vas devoir quitter ta maison, quitter ta vie, toutes tes économies, tous tes souvenirs, c'est quand même très dur. Maintenant, je me dis, on est quand même face à des feux d'incendie qui se répète avec cette canicule, et t'as toujours un gouvernement qui ne s'est pas anticipé. Alors on nous parle de la vétusté des Canadairs, etc. Bon, en même temps,
après on a quand même des moyens, même si là on a besoin aussi des renforts européens, parce que Emmanuel Macron a dit que deux air tracteurs portugais allaient nous aider, deux Canadairs croates, des hélicoptères tchèques et slovaques.
Oui, après, mais
il y a un programme européen d'entraide où chacun se prête le matériel.
Il y aurait l'auberge espagnole avec Romain Duris.
Non, mais tu vois, l'Europe finalement, Jean-Loup, ça sert à quelque chose.
Oui, ah bah oui, les Canadairs croates.
Oui, mais on est quand même, je veux dire, à un moment donné, on est en France, on est aussi en capacité de pouvoir.
Je ne crois pas qu'on manque de moyens, hein, c'est pas ce que
mais
dit
sur place. Mais si, rappelle-toi, Emmanuel Macron qui nous avait promis 16 Canadairs d'ici la fin de son mandat, on en est à 12, ils sont d'une vétusté et vieillissant à n'en plus finir.
Il y a des Canadairs qui sont en action. Après, le problème, c'est plus qu'il a fait très chaud, les sols sont secs, la végétation est très sèche, et puis surtout, il va falloir que peut-être qu'on débroussaille différemment, qu'on aménage les choses différemment, parce que toi, au Cap Ferret, le problème, c'est que les maisons sont sous les pins. C'est-à-dire que
les pins
sont partout.
Très
donc forcément, quand ça prend feu, tout prend feu. Alors peut-être qu'il faut arrêter de faire ça. Alors, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir une maison sous les pins, mais c'est pareil dans le Var. On a construit un peu pas de façon anarchique, mais un peu quand même. Et donc on a laissé faire. Et peut-être que c'est tout ça aussi qu'il faut. Il faut éloigner les forêts des habitations. Il va falloir y arriver. Alors ça sera moins joli, peut-être. Le jardin sera moins joli, mais ça protégera ta maison.
Appliquer des sanctions aussi, que le maire fasse le nécessaire pour que le débroussaillement puisse se faire, qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées, etc. Ça aussi, ça se fait.
Zoran.
Ce qui est frappant ce matin, quand on voit l'actualité et quand on voit ces images, c'est qu'on a peut-être non pas affaire à des réfugiés, mais on a affaire aux premiers déplacés du réchauffement climatique, en fait. On commence à déplacer des gens. On se retrouve aussi assez surpris. Et pourtant, d'année en année, ça se répète. Et... au pire, quand je les entends parler sur les différents plateaux télé, au pire, ils sont surpris, au mieux, ils sont satisfaits. Et moi, je vois pas où est la satisfaction. Hier, j'écoutais la porte-parole du gouvernement qui
Maude Bréjon.
Maude Bréjon sur le plateau de BFM qui semblait dire que la situation était quand même contenue, que les efforts avaient été fournis et tout. Quand on voit ces images-là, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le cas. Quand on voit le prix d'un Canadair, qui est de l'ordre d'à peu près 50 millions d'euros et que on en attend un pour 2028 et un pour 2032,
Ça
fait peur, quoi.
Voilà, c'est ce que je disais.
La septième puissance économique du monde avec.
Oui, mais là, tu vois, une fois plus, vous traitez les conséquences, mais il y a des causes aussi à éradiquer, les causes de ces incendies.
Oui, mais les causes ne doivent pas être une surprise.
Et puis là, pour l'instant, c'est pas une piste criminelle qui est privilégiée.
Non, pas pour la Gironde.
Non, pas pour la Gironde.
Et pour Biscarrosse, c'est un véhicule qui a pris feu.
Oui, mais les causes, c'est pas une surprise. Je veux dire, on est constamment surpris.
Mais Somos, pardon, on sait pas, Somos est encore précisé.
Ouais, pour l'instant, on sait pas, mais.
On est constamment.
C'est pas privilégié, en tout cas, la piste criminelle. C'est plus.
On est constamment
accidentel.
Surpris. Il tombe 5 cm de neige, il est surpris. Il fait chaud en juin, on est surpris. Il y a des incendies, on est surpris. Bon, à un moment, il faudra passer le stade de la surprise et puis savoir anticiper.
Allez. Appelez-nous 3216 si vous êtes directement touché par ces incendies. N'hésitez pas à nous appeler du côté de Biscarrosse, du Cap Ferret, de la Gironde et bien sûr du Var, parce que il y a toujours cet incendie dans le Var qui n'est pas maîtrisé. Jean-Loup Bonamy.
Non, mais je vais essayer de donner quelques explications techniques. Je suis l'homme des explications techniques.
Mais heureusement que tu es là.
Donc, et oui, je ne te le fais pas dire. Premier point, non, mais c'est intéressant de savoir, je me suis un peu renseigné, comment un feu de forêt se propage. Et en fait, il se propage pas forcément par continuité physique du feu, c'est-à-dire que tu as des arbres qui sont en feu et qui chauffent tellement que ça émet des infrarouges et tu as donc d'autres arbres qui sont plus loin, qui vont prendre feu spontanément, s'enflammer d'un coup, c'est très spectaculaire, sans avoir été touché directement par le feu, mais à cause de la chaleur et des infrarouges émis par les autres arbres du voisinage déjà en feu. Et surtout, tu as les projections de flammèches, c'est-à-dire tu peux abattre des arbres et faire un couloir de sécurité de 50 50 mètres, en fait, le feu, il crépite. Et donc, tu as des flamèches, des morceaux d'arbres qui sont projetés, qui peuvent traverser le couloir de sécurité, qui peuvent parcourir plus de 50 mètres. Et là, c'est comme si tu jetais un mégot et le feu reprend de l'autre côté. Donc, en fait, ça pose des problématiques très particulières. Deuxièmement, la forêt des Landes, qui avait déjà brûlé en 2022, je me souviens très bien, eh bien, la forêt des Landes, il faut savoir que c'est une forêt qui est récente, artificielle, qui a été plantée là sous Napoléon III, donc à la fin du 19e siècle, pour faire du drainage et pour pomper l'eau. C'est une forêt de conifères. Ça a été, tu l'as dit, construit n'importe comment. Il y a des maisons juste en dessous des pins. C'est très mal entretenu. C'est très mal entretenu, c'est pas du tout débroussaillé.
Pourtant, je rappelle que la responsabilité du débroussaillage, elle est privée. C'est-à-dire que tu dois débroussailler ton propre jardin, ton propre
endroit.
Les sanctions, elles sont pas appliquées.
Dans les faits, elle n'est pas appliquée. Il y a très peu de contrôle et très peu de sanctions. Il faut beaucoup plus de contrôle et de sanctions pour que les gens appliquent la loi, prennent leurs responsabilités et débroussaillent autour de chez eux. Et notamment,
on peut pas tout demander toujours. Moi, je veux bien plus de moyens, etc. Mais
on peut pas tout demander à l'État.
Oui, on est toujours à se retourner vers la puissance publique en disant qu'est-ce que vous faites ? Oui, mais je suis désolé, il y a une responsabilité de ceux qui jettent les mégots, qui foutent le feu.
La responsabilité de tous ceux qui ne débroussaillent pas alors qu'ils le demandent.
Voilà, qui ne débroussaillent pas, qui font des barbecues alors qu'on leur a dit d'arrêter de faire du barbecue. C'est quand même le préfet du Var est obligé de dire cette semaine ne faites pas de barbecue. Enfin, c'est dingue. Oui. En fait, les gens, c'est des enfants.
Et en plus, on sait pertinemment.
Dernier point technique. Jusque-là, il n'y avait qu'une seule entreprise au monde qui fabrique des Canadair, c'est une entreprise canadienne. Oui. Leur carnet de commande est plein, mais il y a des entreprises françaises qui s'y mettent. Et les États-Unis ont déjà précommandé aux entreprises françaises. Je crois que le gouvernement français, lui, n'a pas précommandé auprès de nos propres entreprises qui se mettent à faire des Canadair.
Zoran,
c'est vrai que l'État peut pas être partout, mais on est quand même dans un pays où on sait contrôler. Enfin, je veux dire, quand vous changez votre store, j'ai un restaurant, vous avez affaire au bâtiment de France. Donc, ils viennent vous voir. Et puis, si vous passez pas par eux, vous pouvez vite avoir une amende, voir le changer, voir le désosser si vous l'avez installé. Donc là, quand il s'agit de la sécurité quand même publique, on devrait installer ce genre de contrôle. Enfin, ça reste.
Si on arrive à contrôler les stores des restaurants, on peut contrôler les débroussaillages.
On contrôle tout et n'importe quoi. Alors, et là, sur la sécurité publique, on sait que ça va arriver, on sait qu'il faut débroussailler. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de contrôle. Pourquoi ?
Alors, au niveau du protocole, je vous explique comment ça se passe. C'est que, donc, déjà, il faut quand même rappeler les statistiques. C'est quand même 9 feux sur 10 qui sont d'origine humaine. Hein, donc, l'imprudence, la négligence, tout ça. Donc, normalement, le maire doit envoyer une mise en demeure si le débroussaillement n'a pas été fait par l'habitant. Si la mise en demeure est restée infructueuse, et il peut lui-même procéder aux travaux et les réparations seront intégralement à la charge du résident. Mais bon, donc du coup, ça sera le maire qui se sera substitué au résident. Et sinon, si le maire ne fait rien, eh bien le préfet peut se substituer aussi.
Alors, je voudrais qu'on écoute Nicolas qui est avec nous, qui nous appelle de Bordeaux en Gironde, justement. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous, salut les GG.
Vous n'avez pas une maison Cap Ferret ?
Non, malheureusement, je n'en ai pas.
Ou heureusement, oui, parce heureusement, que là, malheureusement,
heureusement,
pour ceux qui sont sur place, c'est la grande inquiétude, la grande angoisse. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Nicolas ?
Ah, puisque vous allez voir Gabriel Attal, il faudrait quand même lui demander pourquoi il a fait des coupes budgétaires qui étaient prévues pour justement acheter des Canadair. Aujourd'hui, on est en 2026. En 2022, quand même, on a quand même vu ce que pouvait faire. On a eu la démonstration de ce que pouvaient faire les incendies, c'est-à-dire brûler 32 000 hectares. Quelles ont été les mesures prises depuis 2022 ? Aucune. On a toujours 12 Canadair, dont 4 apparemment qui sont pas en état de voler. Donc là, les Landes de Gascogne, les forêts des Landes, comme disait votre intervenant, sont en très mauvais état, ne sont pas débroussaillées. Donc on savait très bien aujourd'hui et hier que ça pouvait brûler n'importe quand. Et il n'y a pas de mesures qui ont été prises. C'est inadmissible. Et je mets le gouvernement d'aujourd'hui, d'hier, de Gabriel Attal, responsable, justement, qui était en poste en 2022 et qui n'ont rien fait. Et je peux vous dire que tous les gens aujourd'hui français trouvent inadmissible qu'on aille importer des avions de l'Europe comme si en Europe ça brûlait pas. C'est vrai que
on fait l'inverse, ça nous arrive aussi de prêter nos Canadair aux Grecs, aux Espagnols, aux Italiens.
Nos Canadair qui ont plus de 30 ans et qui sont très vétustes.
On sait très bien qu'en été, il y a le feu et ça brûle. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire, on est en train de se dire. Alors la France, c'est ça. Aujourd'hui, la France, c'est toujours trouver des solutions. D'accord ? Ah bah, on a
qu'à se prêter les Canadair.
On se les prête.
Mais non, mais c'est plutôt bien qu'on mutualise les moyens. C'est très cher. Européen, c'est pas plus mal qu'au niveau européen, on mutualise les moyens.
Ça serait bien d'avoir les moyens directement.
Voilà, d'avoir les moyens français.
D'avoir les moyens français sur place.
Oui, bien sûr. Des moyens qu'on, qu'on sait très bien qu'aujourd'hui la France est un pays qui est véritablement dans le sud où les feux de forêt aujourd'hui.
Mais attends, ça gagne même le nord maintenant, les feux.
Mais bien sûr. Donc
en Bretagne,
donc,
notamment,
quand on voit les feux à Fontainebleau, la France est faite de forêts. Et aujourd'hui, toutes les forêts sont susceptibles en France de brûler n'importe quoi.
Mais encore une fois, Nicolas, vous parlez des conséquences. Moi, je suis désolé, j'insisterai sur les causes. Il faut aussi peut-être revoir la façon dont on aménage le territoire, comment on entretient nos forêts, où on construit. Il faut aussi que les particuliers s'y mettent. Je veux dire, moi, je veux bien que... Parce que les Canadairs... on arrive en fin de chaîne, c'est-à-dire que c'est pour essayer de sauver ce qui est en train de brûler. Mais enfin, on peut éviter aussi que ces départs de feu. Il y a moyen d'éviter ces départs de feu.
Oui, mais
quand on apprend que ce sont des jeteurs de clopes, excusez-moi, c'est criminel.
Non, mais ça, Olivier, depuis 2022, on aurait pu quand même faire des choses. Oui. Dire voilà, vous, les propriétaires qui n'entretiennent pas les forêts, vous avez des amendes, etc.
Mais c'est 1500 euros l'amende. Nicolas, c'est 1500 euros l'amende.
Quand elle est
mais c'est pas fait, mais c'est pas mis en place aujourd'hui.
Voilà, sans compter.
Non, on est d'accord, mais ça ne fait même pas peur, vous voyez ce que je veux dire.
Et Sandrine,
c'est pas dissuasif.
Venez chez moi, j'habite dans les Landes de Gascogne, vous allez voir que c'est pas entretenu. Aujourd'hui sur un hectare de forêt, vous avez peut-être 10 ou 15 propriétaires. Les mecs, ils en ont rien à foutre, ils n'entretiennent pas et personne ne leur dit rien. Il y a pas d'amende dites-moi combien il y a d'amendes qui ont été mis à des propriétaires de forêt qui n'entretiennent pas depuis 2022.
Ah bah oui, mais ça je veux bien savoir. J'en conviens parfaitement avec vous, Nicolas, c'est sûr que c'est pas appliqué du tout et puis surtout le montant n'est pas assez dissuasif. Il y a pas assez de contrôle.
Merci Nicolas, je voudrais merci d'avoir appelé au 32-16. À bientôt, Nicolas.
Au revoir, Nicolas.
On donne la parole à Lilian à Gap dans les Hautes-Alpes. Bonjour Lilian.
Bonjour.
Parce que là aussi ça brûle. Vous habitez donc dans les Hautes-Alpes et il y a un grand feu en ce moment.
Oui, tout à fait. Il y a un feu, alors pas à Gap même, mais au niveau du parc des Écrins qui a pris il y a quelques jours sur la commune de l'Argentière de Fraissinière. Et donc hier, de par mon activité professionnelle, je suis monté à Briançon et en redescendant de Briançon, on voit que le feu est loin d'être fixé puisqu'il descend même du côté de Guillestre, de Saint-Crépin, des Gliers. Avec le vent qui souffle fort, on est en pleine saison touristique au niveau du lac de Serpenson et surtout les randonneurs aujourd'hui ne vont plus en montagne parce que c'est très très dangereux. Bah oui. Et c'est vrai que hier en redescendant de Briançon, j'ai croisé une colonne de pompiers immatriculés dans le 75. Donc là aussi, il y a des équipes de Paris qui arrivent parce que c'est très compliqué.
Merci Lilian, merci d'avoir appelé au 32-16. On posait la question sur le compte X des Grandes Gueules avec ces incendies, notamment en Gironde et dans les Landes. Est-ce que vous craignez le pire? Réaction en temps réel quasiment, vous dites oui à 84,8%. Dans un instant, rebondissement dans le dossier du meurtre de Thomas à Crépol, puisque 3 ans après les faits, le racisme anti-blanc a été retenu par les juges d'instruction. Alors qu'est-ce que ça change? À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, 9h24, avec autour de la table Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, l'avocate Sandrine Pégan, et un petit nouveau, un restaurateur venu d'Honfleur en Normandie, Zoran Spasouzevic. Tout se passe bien?
Très bien, merci.
Bon, tant mieux, on continue.
On est gentil avec toi?
Tout à fait.
Oui, mais ça, tu peux être méchante si tu veux. On continue et on va revenir sur ce rebondissement majeur dans le dossier du meurtre de Thomas à Crépol. Rebondissement parce que 3 ans après les faits, les juges d'instruction ont décidé de retenir le motif racial des faits après avoir entendu des témoignages qui font état d'une attaque contre, je cite, la race blanche. Ce soir-là, il y avait une dizaine de témoins qui ont entendu des propos hostiles aux blancs à la fin du bal du village, notamment « on est là pour planter des blancs ». Il faut rappeler ce qui s'est produit, c'était dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023. On a donc des jeunes venus pour certains du quartier populaire de la Monnaie à Romans Mont-sur-Isère, qui débarquent et qui vont se battre avec un groupe de jeunes de Crépol lors d'un bal.
Ils vont les agresser.
Bal de l'hiver du village. Ils vont sortir des couteaux et blesser grièvement 4 personnes, dont Thomas Perrotto, 16 ans, qui va ensuite mourir lors de son transport à l'hôpital. 14 personnes sont mises en examen pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Donc la circonstance aggravante du racisme pourrait être retenue désormais. Et je rappelle qu'aucun n'a jamais admis avoir porté le coup mortel. On ne sait toujours pas qui a vraiment tué Thomas, et peut-être que le procès fera la lumière là-dessus. Alors, ça change quoi, Maître Pégan, de retenir le motif racial, le racisme anti-blanc?
Alors déjà, je te remercie d'avoir utilisé le conditionnel, parce que donc pour l'instant, les juges d'instruction ont simplement rendu un avis d'information et de fin d'information, donc c'est-à-dire que l'instruction est clôturée, qu'ils ont requalifié avec cette circonstance aggravante, mais que ça ne veut pas dire que pour l'instant, il y aura une ordonnance de mise en accusation qui sera rendue in fine pour qu'il soit jugé devant une cour d'assises avec cette circonstance.
C'est intéressant, c'est que le parquet ne l'avait pas retenu,
oui.
Et ce sont les juges d'instruction, en écoutant les témoins, qui se sont dit « Ah, il faut retenir ce motif ».
En écoutant les témoins et surtout en récupérant un PV qui avait été mal classé. Est-ce que tu es informé de cela? C'est un PV qui avait été établi 5 jours après les faits, qui avait déjà fait état d'une dizaine de personnes qui avaient été entendues et qui déclaraient justement que les personnes étaient venues pour se faire du blanc. Donc voilà, du coup, donc là, la circonstance aggravante aurait déjà pu être retenue à ce moment-là. Mais sauf que ce PV n'a malheureusement pas été classé dans le dossier fond. Il a été classé dans le dossier notification des gardes à vue. Donc évidemment que notification de garde à vue, c'est simplement par rapport aux mesures de sûreté. Donc ce PV n'ayant pas été classé au bon endroit, du coup, ça ne pouvait pas être retenu. En tout cas, aujourd'hui, maintenant qu'il a été retrouvé, on ne sait pas si c'est une dissimulation volontaire ou non, hein, ou si c'est une erreur humaine ou autre chose.
On comprend mieux la lenteur de la justice.
Hein. Oui, voilà.
Ça fait déjà 3 ans. Là.
Et donc, avec cette circonstance aggravante aujourd'hui qui est retenue, mais in fine, on ne sait pas si elle le sera, ça modifie en tout cas le cadre juridique des poursuites et ça alourdit les peines. Puisque là, en fait, de homicide à tentative d'homicide avec la circonstance aggravante de racisme anti-blanc, bah du coup, c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue.
Eh oui, les peines ne seront pas les mêmes. Mais il faut se souvenir de la polémique qui avait été déclenchée à l'époque, parce que certains, dès le début, avaient parlé de racisme anti-blanc, d'autres non. Il y avait eu beaucoup de débats, parfois hostiles, sur cette question.
Ah, bah, je me souviens très bien, parce que c'est dommage que le parquet n'ait pas retenu ça d'emblée, puisque, en fait, moi, à titre personnel, cette affaire a eu lieu il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Depuis le premier jour, je suis au courant de la dimension de racisme anti-blanc. Bah, parce que les témoins l'avaient dit, parce que ça a été massivement relayé sur les réseaux sociaux et parce que ça a été rapporté par la presse. Ça avait été rapporté par différents médias, y compris par BFM.
Oui, sauf que l'ARCOM, malheureusement, par rapport à tous ces médias-là qui avaient mis en avant le racisme anti-blanc, ils ont été saisis.
Ça avait, on en avait parlé et je me souviens que notre ami, le délicieux Patrick Cohen, s'était encore illustré sur le sujet, niant cette dimension. Donc, évidemment, on le sait depuis le début, que les phrases « on va planter des blancs, on est là pour planter des guerres », ces phrases ont été prononcées au moment de porter les coups de couteau. Voilà, c'est une réalité parfaitement attestée. Bien sûr que le racisme anti-blanc existe. Moi, j'ai consulté, pour préparer l'émission, j'ai consulté différents dictionnaires, le Larousse, le Robert, le dictionnaire de l'Académie française qui fixe les canons de la langue. À aucun moment, je n'ai vu que seuls les Blancs étaient racistes. J'ai vu une définition générale du racisme. À aucun moment, on ne dit que le racisme serait le monopole, l'apanage d'un groupe et que seuls les Blancs pourraient être racistes. Non, tout le monde peut être raciste et tout le monde peut être victime de racisme. Il n'y a pas un groupe qui, dans une sorte de deux poids, deux mesures, serait, comme par magie, le seul à ne pas pouvoir être victime.
Sauf que le racisme anti-blanc, c'est parce qu'il est le plus répandu chez nous.
Il mène quand même à la mort, et il mène quand même non seulement à la mort, mais en plus, là, en l'occurrence, à la mort d'un jeune mineur. Il mène à des agressions, il mène à des insultes, il mène à des agressions, il mène à des coups de couteau, il mène à des...
C'est le plus répandu, c'est ce que...
Mais là, en tout cas, s'il est retenu...
Alors ça, je n'en sais rien.
S'il est retenu là, ça va faire jurisprudence, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est une évidence.
Ah oui.
Ouais.
Zoran.
Bon, là, il s'avère que c'est démontré que il y avait l'effet ping-pong aussi à l'époque, je me souviens, c'est-à-dire que les uns disaient c'était du racisme anti-blanc, les autres disaient que c'était du racisme aussi anti-arabe puisque c'était des maghrébins, enfin d'origine maghrébine. Il y avait un peu cet effet-là. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que c'est le drame de notre société, quoi. C'est-à-dire que on est dos à dos. On se retrouve dos à dos, les gens se retrouvent
communauté contre communauté.
Voilà, communauté, soit victime, soit agressé, soit agresseur. Et c'est ça en fait qui est dramatique. Et bon, pour la famille aussi. Mais voilà,
toi, tu es fils d'immigrés.
Immigrés, oui.
D'origine serbe.
Oui, ils sont arrivés dans les années 60. Et nous, on connaissait pas ça, nous, dans les années 70 et 80, toutes les communautés se parlaient.
On se renvoyait moins.
Reviens sur les propos.
Les confessions, les origines.
Je reviens sur les propos d'Olivier Truchot, qui nous dit le racisme, sans statistiques bien sûr, le racisme anti-blanc, c'est pas le plus répandu dans la société. Alors je suis d'accord sur les discriminations à l'emploi, c'est pas le plus répandu sur les discriminations au logement. Bien sûr que là, ça sera le racisme anti-maghrébin, anti-noir. Mais attends, sur les agressions physiques, ça serait intéressant de savoir combien de personnes non blanches sont victimes d'agressions physiques, par exemple par des nervis de l'extrême droite, et combien de personnes blanches sont victimes d'agressions motivées par le racisme anti-blanc. Et ben finalement, tu te rendrais compte que c'est peut-être plus répandu que ce que tu crois.
Je dis simplement, dans un pays où majoritairement les gens sont blancs, forcément le racisme anti-blanc, c'est un peu du bon sens.
Qui prend le plus de coups de couteau en raison de son origine ?
Mais on n'en sait rien, même toi tu le sais pas.
Si on n'en sait rien, mais moi je n'ai rien affirmé. Parce que c'est Olivier qui a affirmé.
Oui, mais bon,
je vais te répondre. Les discriminations au logement, à l'embauche,
je suis d'accord,
sont quand même plus les discriminations vis-à-vis des noirs ou des arabes que des blancs.
Je suis d'accord. Je suis 100% d'accord et je l'ai dit avant toi. Mais les agressions physiques, les coups de couteau motivés par l'origine ethnique des victimes, t'as des statistiques ?
Si tu les as, donne-les.
Non, je les ai pas. Mais toi, t'as affirmé quelque chose en premier.
J'ai dit d'une manière générale, le racisme anti-blanc existe sans doute, mais n'est pas la généralité. Voilà.
Et ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait des statistiques les victimes d'agressions physiques motivées par un caractère raciste.
Non, mais ce débat, il ne devrait même pas exister parce que de toute façon, on se pose la question, est-ce que le racisme anti-blanc existe-t-il en droit ? Le droit et la loi protègent tout le monde.
Le drame, c'est déjà d'en parler, quoi.
Oui.
C'est vrai.
Non, mais surtout, il faut combattre tous les racistes. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire des distinctions.
Ouais, c'est ça.
Et puis la loi, de toute façon, protège ainsi. Hein. Ouais. Donc, à partir du moment où il y a une différence entre ton ethnie, ta nationalité ou ton appartenance, déjà, la loi protège.
Mais quand on écoute certains groupes politiques, ils n'existent pas. Il faut le dire aussi. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils n'existent pas.
Oui, Antoine Léaumont nous a expliqué savamment que le racisme anti-blanc n'existe pas.
Je pense que le nier, c'est aussi, c'est pas bon pour les communautés.
Mais ça, c'est des groupes politiques qui sont dans des revendications communautaires.
Ah, c'était l'extrême gauche, hein.
Ah, bah oui.
C'était eux qui disaient ça.
Donc, le dire qu'il n'existe pas.
Mais toi-même, t'as été victime de discrimination de tes parents?
Non, jamais.
Jamais.
Franchement, jamais.
Mais tout ce qui est serbe et les Balkans, c'est différent.
Non, ouais.
Jean-Loup Bonamy
un peu sur le nom.
Moi, oui. Excuse-moi, j'étais au collège fin des années 90, début 2000, au collège Victor Hugo à Besançon. J'avais énormément d'amis de toute communauté, comme dirait Zoran, des Blancs, des Maghrébins, des Africains. Et parfois, ça m'arrivait de m'embrouiller avec d'autres jeunes qui n'étaient pas mes amis, qui eux étaient d'origine maghrébine, qui nous embrouillaient, nous, moi et mes amis, et mes amis qui pouvaient être Blancs, Maghrébins, Noirs. Et ces jeunes qui avait un genre racaille, ça m'est déjà arrivé de me faire traiter de sale blanc ou de sale gouer ou de sale couffard quand j'avais 11 ans par des mecs avec qui je me bagarrais. Voilà, mais ça veut pas dire que tous les maghrébins sont comme
Jean-Loup Bonamy,
voilà.
Ça c'est la nouvelle du jour.
La majorité Jean-Loup n'est pas comme ça.
Se bat.
Je sais pas, j'étais dans un collège, on était 1200, il y a beaucoup de diversité sociale et ethnique. Voilà, j'avais des amis de toute communauté, comme dirait Zoran, mais ça arrivait qu'on se fasse.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, c'est pas qu'on se battait, c'est qu'on se faisait attaqué par des gens à qui on n'avait rien demandé.
Tu vois, déjà de dire ils ne sont pas tous comme ça, je pense que c'est une erreur. Ils sont majoritairement pas comme
ça. Je suis d'accord.
C'est pas tous, c'est majoritairement.
Je suis d'accord, mais je peux te dire
majorité n'est pas comme ça.
Je peux dire qu'il y a 25 ans, je suis tout à fait d'accord parce que tu viens de dire c'est une petite minorité, mais il y a 25 ans, cette petite minorité pouvait déjà te traiter de sale gouer ou de sale couffard dans la cour du collège Victor Hugo à Besançon. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais je connais des jeunes blancs qui se sont fait tabasser en se faisant traiter de sale gouer. Et les fois où ils se défendaient, leurs agresseurs allaient se plaindre en disant « Ah, j'ai été victime de racisme », parce que des gars qu'ils avaient agressés à deux contre un, c'était défendu. Voilà.
Guillaume est avec nous au 32-16.
D'accord, c'est une minorité.
Guillaume est avec nous au 32-16 depuis les Pyrénées-Atlantiques à Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Que pensez-vous donc de ce rebondissement dans l'affaire du meurtre de Thomas à Crépol?
Ben, si c'est avéré, parce qu'il faut quand même qu'on reste quand même sur du conditionnel, mais si c'est avéré, ce qui serait intéressant, c'est de reconfronter tous ces hommes politiques qui ont essayé de faire passer Thomas pour le premier raciste.
Mmh. Ouais.
Il y a un moment où ils ont un poids, ils ont une voix, ils ont, eux, la possibilité de passer dans les médias. Il y a un moment où il va falloir que ça rende un peu des comptes. C'est très grave ce qui a été fait avant, si jamais c'est avéré.
Mmh. Et justement, Guillaume, on, par rapport à ce que vous dites, c'est bien que les magistrats, instructeurs, aient eu ce courage de pouvoir dire que cette circonstance aggravante soit retenue, puisque justement, comme vous le dites, très justement, dès le départ, c'est plusieurs partis politiques qui ont voulu nier cet état.
Et oui, mais on le nie tout le temps, cet état. Il y a un moment où il va falloir assumer comment devient la France, comment on est. Il va falloir comprendre que ce qui serait intéressant, il y en a plusieurs qui le disent sur votre plateau, mais les statistiques ethniques, il va falloir y venir, savoir ce qui est fait, par qui et comment. Et après, à partir de là, il y a deux solutions qui se proposent. Si, comme la gauche le dit, c'est pas vrai, à partir de là, les statistiques vont répondre en disant c'est pas vrai. Et si c'est l'inverse, comme l'extrême droite peut dire, c'est ça, à ce moment-là, mais il va falloir travailler dessus. Ça
moi, je suis assez d'accord qu'il faut plus de transparence, plus de statistiques ethniques.
Il y a beaucoup
d'hypocrisie sur ces sujets.
Il y a une minorité qui fout la merde, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, les minorités dirigent pour tout.
Et il y a aussi le problème, Guillaume, vous soulignez aussi le problème, c'est que les responsables politiques se croient obligés de réagir tout de suite, en n'ayant pas tous les éléments du dossier. Exactement. Et donc, ça a beaucoup été d'ailleurs instrumentalisé, ce qui s'est passé à Crépol, de part et l'autre. Et on a entendu beaucoup de bêtises, parce que ces responsables politiques devraient prendre un peu de recul, mais ça va être compliqué. Attendre qu'on sache précisément. Alors là, ça fait 3 ans, donc c'est vrai que c'est un peu long. Il faudrait aussi que la justice soit plus rapide. Parce que je suis désolé, Sandrine, 3 ans, pour requalifier les faits,
ça me paraît quand même. Et on ne sait toujours pas qui a porté le coup de couteau.
Et le procès n'a toujours pas eu lieu. Aux États-Unis, ça fait bien longtemps qu'on aurait clos cette affaire. Et les gens seraient en prison, jugés, et on serait passé à autre chose. Il y a quand même un problème.
Il y a 14 mises en examen. Il a fallu faire des investigations. Je n'ose imaginer à quel point elles ont dû être nombreuses. Parce que donc, l'exploitation des téléphones pour savoir qui était sur le lieu ou à proximité, l'exploitation des vidéosurveillances, les auditions des uns et des autres, les confrontations. À chaque fois, ça prend inévitablement du temps, d'autant qu'en plus, tu as les droits de la défense, et donc à chaque fois, tu peux faire des demandes d'actes, et donc ça fait retarder la vie de fin d'information.
Mais à l'époque, je me souviens que certains étaient revenus sur leur témoignage aussi.
Aussi, oui, bien sûr. Mais, il faut déceler le vrai du faux.
Sur l'instant, on a l'impression, on dit quelque chose, et puis après, peut-être qu'on se rétracte aussi. Donc c'est pas évident aussi de démêler le vrai du faux là-dedans.
Bien d'accord, c'est la raison pour laquelle ça prend un peu plus de temps.
C'est pour ça que ça prend du temps.
Alors, on se posait la question, est-ce que vous pensez que ce qualificatif de racisme anti-blanc va tenir jusqu'au procès? C'est possible ça?
C'est possible.
À un moment donné, on peut l'enlever?
Alors oui, bien sûr, puisque donc le juge d'instruction, là, il va recueillir des observations de toutes les parties par rapport à ce qui a été retenu. Et ensuite de quoi, les magistrats instructeurs peuvent revenir sur leurs qualifications et rendre une ordonnance de mise en accusation différente, avec des qualifications différentes.
Allez, dans un instant, Anaïs Sens nous rejoint. C'est le « On s'en fout, on s'en fout pas » tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Une grande gueule.
La suite des grandes gueules, 9h44, avec autour de la table ce matin Sandrine Pégan. Nous sommes avec Jean-Loup Bonamy et un petit nouveau, Zoran Spasojevic, le restaurateur d'Honfleur. Tout se passe bien?
Parfait.
Bon, tant mieux.
Bien, son nom.
Cette semaine, je me suis. J'ai travaillé toute la nuit.
Il a un peu accéléré quand même.
J'ai travaillé toute la nuit sur la prononciation de ce nom. J'essaie de.
Oui.
De pas, parce que sinon Zoran
retente,
a fait
Olivier.
Les gros yeux.
Va bien.
Retente.
Oui, fais pas la mêlée. Ouais. Anaïs Sens nous a rejoint, mais laissez-moi vous dire que cette semaine, vous savez, on vous fait gagner un magnifique séjour au parc Astérix, un séjour de 2 jours. Vous passez la nuit sur place pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants, donc séjour en famille pour découvrir les 50 attractions proposées cet été dans ce parc gaulois. Alors pour gagner votre séjour au parc Astérix, c'est très simple, vous envoyez le mot parc au 732 16, parc au 732 16. Il y a forcément une gagnante ou un gagnant qui sera tout à l'heure en direct dans les Grandes Gueules. Donc à vous de jouer, à vous de gagner. C'est parti pour le OSEF.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Anaïs Sens, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Dans un hôpital du département du Nord, écoutez les GG, la vingtaine de climatiseurs livrés par l'État est inutilisable. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce que les prises sont italiennes et donc inadaptées aux fiches françaises évidemment. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, ma chère Sandrine ?
On ne s'en fout pas.
Zoran ?
On ne s'en fout pas.
Ah. Et mon cher Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Ça se passe donc au centre hospitalier d'Avesnes-sur-Helpe, relate la Voix du Nord. Des membres du personnel un peu bricoleurs ont donc été contraints de changer toutes les fiches des climatiseurs afin que ces derniers soient opérationnels. Zoran, pourquoi tu t'en fous pas ?
Bah, c'est un épisode de plus dans la rocambolesque aventure des climatiseurs en France, quoi. Enfin, même le meilleur scénariste de film comique n'arriverait pas à ficeler un scénario. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui les a commandés.
En urgence,
bien sûr. Et puis, voilà, c'est la.
C'est quoi les prises italiennes ?
Ouais, tu sais, c'est les triangles à l'envers, ouais, avec les trois fiches comme ça.
Il faut acheter des adaptateurs, ça existe.
Oui, oui. Ouais, voilà. Mais bon, enfin. Et puis pourquoi italienne d'ailleurs ?
Ah, c'est une bonne question. pourquoi pas français ?
Bah, voilà.
Peut-être parce qu'on n'en produit pas.
Voilà.
C'est ça la question.
On produit plus quoi.
Et puis surtout, ça serait bien de savoir combien ça nous coûte, parce que comme c'est commandé dans l'urgence, à mon avis, on n'est pas en train de faire de bonnes affaires là dans l'achat des climatiseurs.
Ouais, c'est ça, ouais.
Sandrine.
Alors cette histoire, elle pourrait faire sourire si ça se passait pas dans un hôpital, tu vois. Mais bon, mine de rien, cette anecdote résume parfaitement le mal français. On communique d'abord sur les chiffres et on vérifie les détails après, parce que rappelez-vous que l'État français a commandé 30 000 climatiseurs.
C'est ce qui a été annoncé.
Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Mais bon, il y a 1350 hôpitaux. J'ai juste fait le calcul et pourtant je suis pas très bonne en mathématiques. Ça fait 22 climatiseurs dans un hôpital.
Voilà.
Tu vois, donc bon. Et là, on est en train de te dire que t'en as 20 qui arrivent et on vérifie pas les détails. Alors bien évidemment, le problème a été résolu rapidement, mais quand même, c'est vraiment...
Tu sais que certains se font voler aussi. Il y a des hôpitaux qui ont râlé parce que les gens partent avec les climatiseurs, parce que c'est des climatiseurs portatifs. Non mais vraiment, ça fait pitié quand même.
Non mais oui, ça fait pitié, c'est ça.
Jean-Loup ?
Alors non, mais deux choses. Un, le problème ubuesque a été rapidement résolu. Par qui ? Par les soignants sur le terrain. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est exactement comme pendant le Covid. C'est-à-dire que tu as une bureaucratie qui fait n'importe quoi et en fait, tu as des soignants pragmatiques sur le terrain qui se débrouillent, qui improvisent et qui trouvent des solutions. Et que d'ailleurs, quand on les laisse agir, ça se passe bien. On devrait leur laisser plus de liberté et plus d'initiative. Et deuxièmement, en effet, comme on l'a dit, c'est des fiches italiennes. Donc, je sais pas, il y a la prise Sophia Loren, la prise Silvio Berlusconi, la prise Monica Bellucci. Parce que, en fait, tout simplement, on n'en produit pas. Donc, le climatiseur, soit il est fabriqué en Italie, qui est une grande puissance industrielle, soit il est fabriqué en Chine pour le marché italien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas fabriqué en France. Si on en fabriquait, on n'aurait pas ce problème.
Les GG, faut-il autoriser le paiement en ticket resto au supermarché le dimanche? C'est dans les tuyaux, en tout cas depuis de longs mois. La réforme des titres restaurants doit être débattue au Parlement à la rentrée. Est-ce qu'on s'en fout pas, Zoran ?
On s'en fout pas.
Sandrine ?
On s'en fout pas non plus.
Jean-Loup ?
On s'en fout.
Cette réforme vise à élargir l'usage donc des tickets resto en pérennisant la possibilité de les utiliser pour payer vos courses au supermarché et en ouvrant aussi leur usage donc le dimanche pour tout le monde. On est donc bien loin du but premier, c'est-à-dire déjeuner au restaurant en semaine, mon cher Zoran.
Bah c'est redonner du pouvoir d'achat détourné, quoi, en fait. C'est tout. On en est là dans ce pays. C'est-à-dire, on n'arrive plus à trouver les solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux gens. Donc, moi, je comprends même en tant que restaurateur, je comprends que les gens puissent utiliser leurs tickets resto.
Enfin, ça ne servait pas à ça, les tickets de resto.
À la base, non, mais il y a beaucoup de choses qui ne servaient pas.
Parce qu'on devrait les appeler autrement. On devrait s'appeler un ticket alimentaire.
Ou... Ouais.
Un ticket course.
Ça veut dire aussi, moi je pense, ça veut dire qu'ils ne les utilisent pas en semaine au restaurant. Ils y vont plus.
Ça veut dire qu'ils ne vont plus au resto.
Ils ne vont plus au restaurant. Donc, moi, je me mets à la place des gens qui ont du mal.
Donc, toi, ça te choque pas? Parce qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui trouvent ça.
Non, franchement, ça me choque pas. Non.
Pas normal de détourner ce ticket qui était censé aider les restaurateurs et qui maintenant aide la grande surface, en fait.
Les tickets restaurants sont utilisés à 90% le midi. C'est la chute la plus substantielle dans les restaurants, c'est la fréquentation du midi.
Donc, c'est un manque à gagner quand même pour vous.
Pardon ?
C'est un manque à gagner.
Parce que les gens vont plus au resto à midi.
Ils vont plus au resto à midi. Ouais, ceux qui vont, ils regarderont pas s'ils ont un ticket resto ou pas. La plupart, c'est les cadres sup, les cadres. Voilà.
Ceux qui vont ont les moyens de se payer et les autres. Et les autres. Ils vont acheter un sandwich au supermarché du coin.
Les jeunes qui ont des loyers conséquents dans les grands centres urbains, moi je comprends qu'ils puissent subvenir à leurs besoins en prenant leur ticket resto. Enfin, je trouve ça humain.
Sandrine. Faut arrêter de croire que les Français essaient à tout prix de tricher ou de détourner le système. En fait, ils sont là en train d'essayer d'économiser le moindre euro, quoi. C'est ça, en fait, la situation en elle-même. Et le mode de travail a nettement évolué aujourd'hui. Il y a du télétravail, on peut travailler aussi le dimanche. Mais là, le fait de pouvoir utiliser les tickets restaurants aussi le dimanche pour acheter les courses alimentaires, attention, ce ne seront que des courses alimentaires. Justement, j'en parlais hier avec mes coiffeurs. Ah oui, ils ont une carte qu'on appelle Swile. Et si tu veux acheter, ton papier toilette. La carte, elle est refusée.
Ça s'appelle un ticket restaurant. En plus, si on peut acheter du PQ,
Il y a certains Français qui peuvent détourner le système. Là, on va acheter des œufs, de la farine
Tu détournes le système aussi. C'était fait pour les restaurants. Oui. Appelons-le différemment. Mais sauf on ne peut pas dire au restaurateur,
le travail a évolué. Le télétravail, tu fais comment ? Tu ne peux pas manger au restaurant. Donc tu te fais à manger chez toi. Et puis en plus, ça coûte moins cher. Et tu te fais des petites gamelles, ce genre de choses. Pour moi, ça devrait aussi être étendu au dimanche.
Jean-Louis, il s'en fout. Les GG, on reste dans l'alimentation. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, mais comment ? Les prix des fruits et légumes ont plus que doublé en 10 ans selon l'association Famille Rurale. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Jean-Louis ?
On s'en fout pas.
Sandrine ?
On s'en fout pas.
Zoran ?
On s'en fout pas.
Rien qu'en un an, déjà 10% d'augmentation sur les légumes. Et à titre d'exemple, les GG, approvisionner en fruits et légumes une famille de 4 personnes coûte en moyenne 162 euros par mois, ce qui devient hors de portée de nombreux budgets, dénonce l'association. Et la sécheresse et la canicule de ces 2 derniers mois ne vont certainement pas arranger les choses. Zoran, pourquoi tu t'en fous pas ?
Je me méfie quand même de ce genre d'études parce que on les prend où d'ailleurs ? On prend ça dans les centres-villes, on prend ça dans les campagnes. Moi, en tant que restaurateur, c'est pas le produit qui a le plus augmenté.
C'est pas ce que tu constates.
Non. Je trouve que il y a quand même des chaînes, pour pas les nommer, on arrive quand même à trouver des prix très abordables. Après, il y a aussi la multiplication des supérettes dans les centres-villes. Là, c'est très cher parce que les loyers sont chers, parce que les charges sont chères. Je pense qu'il y a, je suis pas sûr que à la base c'est augmenté si augmenté.
Après, il faut savoir aussi si c'est des produits de saison, ou pas.
Bon, là, mais par contre, ce qu'il faut, je pense que ça va continuer d'augmenter si c'est le cas, parce que là, il parle d'une pénurie d'engrais. Avec la guerre en Iran, donc. Mais moi, c'est en tant que restaurateur, c'est pas le produit que je trouve qui a augmenté le plus.
Sandrine.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui.
Manger des légumes, Sandrine.
Ah oui, beaucoup de verre. Je sais pas pourquoi, c'est des légumes verts, parce que c'est bien pour la silhouette et pour le corps, les fibres, etc. Bon, voilà, je vais pas vous faire un cours de nutrition. Mais je trouve qu'aujourd'hui, manger équilibré, c'est même plus une question de volonté, quoi. C'est juste une question de portefeuille. Parce que les familles les plus modestes, on va pas se mentir, c'est ceux qui à un moment donné font le choix de ne pas prendre des produits frais. Et tu parlais, Anaïs, que c'était 162 euros. Oui, sauf que c'est 100 euros en plus issus de l'agriculture biologique.
Oui, donc si
en plus
tu veux manger bio, c'est encore plus cher.
Moi, je pense que ça coûte moins cher de cuisiner,
Alors moi,
on cuisine avec fruits et légumes.
Figurez-vous.
Par contre, ça prend plus de temps.
Moi, par exemple, j'achète pas de produits frais. Les légumes verts, je les prends, mais en surgelé.
Ah bon? Ah oui.
Parce que d'une part, c'est moins cher, en tout cas, et puis c'est de très bonne qualité, et puis c'est plus pratique. Mais malheureusement, je vois aussi sur les étalages que les produits frais sont devenus nettement plus chers.
Oui,
et on est obligé de faire des
cher.
Restrictions.
Tu as raison, Zoran, ça te coûte moins cher.
Ça coûte moins cher au gramme, au 100 grammes.
D'acheter des légumes et de les cuisiner que d'acheter des produits transformés.
Oui, sauf que maintenant, on est en train de se dire qu'un paquet de produits industriels, un paquet de biscuits industriels comparé à un kilo d'haricots frais, et ben, visiblement, c'est pratiquement le même prix. Donc,
Jean-Louis, tu cuisines?
En tout cas, je mange beaucoup de légumes.
Ah, donc tu cuisines
de fruits et de légumes. Et
tu t'es aperçu que ça avait augmenté ou pas ?
Je sais pas ce que tu entends par cuisiner. En tout cas, je fais cuire mes haricots verts achetés en boîte.
Oui.
Ils sont déjà cuits.
Je le voyais en train de décoter. Pourquoi tu achètes
pas frais les haricots ?
Tu les cuis dans une casserole.
Mais ils sont déjà cuits en boîte.
Tu vas pas manger directement.
Tu les réchauffes
quand même. Tu les réchauffes quand même.
Tu les mets au micro-ondes et puis voilà.
Et donc, mais pas frais. T'achètes pas des haricots frais.
Si, et même chez ma maman, c'est moi qui m'occupe décoter les haricots.
Et bien voilà, c'est le scoop de la matinée.
Exactement.
Jean-Loup dépiote les haricots. Dans un instant, j'ai la grande gueule. On va continuer de parler du pouvoir pouvoir d'achat, puisqu'il y a Gabriel Attal qui a des propositions à faire sur l'écart entre le brut et le net sur nos salaires. Il sera en direct dans les GG. À tout de suite, ne bougez pas.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.